Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler du désir au féminin. Comment décrire et comprendre ce désir qui reste souvent mystérieux, une énigme pour les hommes, comme d'ailleurs pour de nombreuses femmes qui n'ont pas tout à fait cerné le fonctionnement de leur corps, de leurs émotions, de leurs sensations. Pour comprendre l'autre, il faut se résoudre d'abord à envisager sa différence. Et c'est parfois compliqué au sein d'un couple d'imaginer que son partenaire réagit de façon singulière, d'admettre que ce territoire de la sensualité est marqué par cette différence. Nous sommes distincts et nos désirs n'ont pas les mêmes ressorts. Alors comment faire pour mieux comprendre le désir de sa partenaire quand on est un homme? Comment faire pour mieux comprendre et exprimer son propre désir lorsque l'on est une femme? Et comment vivre en harmonie en couple avec ses désirs, on l'a compris, différents? Qu'est-ce qui provoque l'envie et l'ardeur? Et pourquoi parfois, eh bien, l'envie est-elle absente? Le désir au féminin, le thème donc de notre émission du jour dans Priorité Santé. Vous posez vos questions au docteur Catherine Solano, sexologue, qui est bien sûr à mes côtés pour y répondre. Docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors on attend vos appels, vos témoignages sur vos difficultés avec le désir, vos joies, ce que vous avez fini par comprendre de votre propre fonctionnement, ce que la vie vous a appris à propos du désir. Notre numéro, c'est le 33 84 22 75 75. Il y a quelques instants, docteur Catherine Solano, je disais mystère du plaisir au féminin. Alors, est-ce que vous diriez, vous, que ce désir féminin est plus mystérieux que celui des hommes?
C'est difficile de répondre. J'ai deux choses. D'abord, c'est qu'il y a une chose qui est plus facile pour les hommes, c'est que ils ont des érections visibles. C'est-à-dire qu'un homme très jeune, adolescent, va se dire « Tiens, il y a quelque chose de spécial, de sexuel qui se passe en moi parce que j'ai une érection. » Et donc, et en fait, c'est pas forcément du désir, c'est une excitation sexuelle, mais c'est lié au désir. Donc, il a plus de facilité à décoder ce qui se passe dans son corps qu'une femme, qui pourtant a des réactions de gonflement au niveau vaginal, au niveau du clitoris, mais qu'il voit pas, donc elle le sent moins. Voilà, elle le reconnaît moins. Cela dit, je vais vous raconter une chose, un événement qui m'a beaucoup frappée, c'était une conférence sur le désir sexuel féminin dans un congrès de sexologie où j'ai assisté. Bon, c'était intéressant. Alors, ils expliquaient que le désir féminin était compliqué, mystérieux, patati patata, voilà. Et à la fin de la conférence, il y a un homme qui s'est levé, un collègue, et qui a dit « Eh ben, je vous ai écouté et moi, je me dis que je suis une femme. Parce que si vous croyez que le désir masculin n'est pas mystérieux, n'est pas compliqué, n'est pas fragile, etc., eh bien, vous vous mettez le doigt dans l'œil. On croit qu'un homme, c'est une machine qui fonctionne instantanément. »
La mécanique c'est, manifeste et
c'est
que c'est
totalement
pas forcément le cas.
Faux. Les émotions ont un cœur, un cerveau, des émotions.
Et ça, donc, on le savait déjà.
Je pense qu'il est tout aussi mystérieux, mais qu'on le voit moins, vous voyez.
Bon. Peut-être qu'on en parle moins. Moi aussi.
Oui, parce que les hommes sont censés avoir du désir tout le temps, alors que c'est totalement faux. On le voit bien en consultation, nous. Hein.
Ouais. Alors, elles et ils attendent vos conseils, docteur Catherine Solano. On va tout de suite donner la parole à nos auditeurs et à nos auditrices.
Priorité santé sur RFI.
Et c'est une auditrice, on parle du désir au féminin, ça semble logique. C'est Judith qui est en ligne de République démocratique du Congo, de Bukavu. Bonjour Judith.
Bonjour.
On vous écoute Judith.
Bonjour docteur Catherine. Bon, moi je me demande toujours pourquoi cette grande différence entre un homme et une femme du point de vue du désir, parce que apparemment le désir de la femme varie très remarquablement. Et parfois, on a envie et parfois, on n'en a pas. Et puis, ça peut varier pendant toute une journée. Vous avez envie un moment et puis des moments, alors vous n'en avez pas. Alors que j'ai remarqué que les hommes sont toujours prêts à chaque instant, mais aussi, aussi le désir de la femme varie aussi par rapport à son humeur. Même pendant l'acte, une femme qui a un désir, mais il peut avoir un blocage de désir parce qu'elle a pensé à quelque chose de négatif. Pourquoi cette différence ?
un petit peu l'illustration d'un dicton qui dit souvent « femme varie », docteur Catherine Solano.
Oui, alors déjà, c'est vrai que le désir féminin varie beaucoup plus. Pour une raison toute simple, c'est qu'on n'est pas faites pareil. Nous, on a un cycle hormonal. Et le cycle hormonal fait beaucoup varier les hormones. Et donc, elles agissent sur le désir. C'est-à-dire que si on veut, la nature a prévu que les femmes aient beaucoup de désir au moment de l'ovulation ou les jours avant l'ovulation quand elles sont fertiles. Parce que le but de la nature, c'est qu'on fasse des enfants. Donc, quand une femme n'est pas fertile ou quand ses hormones ne sont pas en phase, eh ben, elle a pas d'envie. Comme si la nature se disait, c'est pas la peine de se fatiguer à avoir des rapports sexuels puisqu'on n'aura pas de bébé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors que les hommes, ils sont fertiles tout le temps, donc ils ont un désir beaucoup plus constant. Ça, c'est vrai. Et c'est pas spécialement de la psychologie, hein. C'est aussi, et je peux même vous dire que j'ai connu une dame comme ça qui avait trop de testostérone. Elle avait une tumeur qui fabriquait de la testostérone, mais on le savait pas. Et elle disait, je comprends pas, j'ai tout le temps envie, je deviens obsédée sexuelle. C'était une dame qui avait 80 ans. Elle disait, mais moi, je suis veuve, je pensais pas trop à la sexualité, maintenant, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai tout le temps du désir. On est très dépendant des hormones. Donc, vous voyez, c'est ça qui joue.
Même voilà. Au cours d'une même journée.
Alors, au cours d'une même journée, moi, quand même, ça, c'est vrai, parce que Judith disait, justement, ça dépend des pensées, de ce qui se passe. Alors, c'est vrai que, on dit que dans le cerveau, il y a des compétitions émotionnelles. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de désir à un moment, eh bien, il va l'emporter sur tous les petits tracas de la vie. Par contre, si vous avez un peu de désir, mais que vous avez un gros souci ou une grosse colère ou un gros problème, eh ben ce gros problème va déclencher des émotions négatives qui va étouffer le désir. Donc, il y a des compétitions entre nos émotions. Et puis, moi, je pense franchement, là, Judith, je vous le dis à toutes les femmes qui nous écoutent, qu'il y a une raison pour laquelle les femmes ont moins de désir, c'est parce que elles ont beaucoup plus de travail. Ce sont les femmes qui font la cuisine, à manger, qui s'occupent des enfants, les courses et qui travaillent la plupart du temps en plus à l'extérieur, alors que le partage des tâches ménagères est loin d'être effectif. Si vous voulez, quand un homme, pendant une semaine, fait toutes les tâches que fait une femme, bah, il est fatigué, il a moins envie de faire l'amour aussi. Hein.
Franchement. Judith, est-ce que vous avez une autre question à poser au docteur Catherine Solano?
Pas pour l'instant, je suis satisfaite pour sa réponse.
D'accord, merci beaucoup Judith, excellente journée à vous, à bouc à vous. On va prendre un appel qui vient de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, c'est Conan qui est avec nous. Bonjour Conan.
Oui, bonjour Caroline Paré.
Bonjour, on vous écoute, oui. Docteur Catherine Solano vous écoute.
Alors d'accord, moi je voudrais savoir, comment est-ce que vous expliquez qu'une femme qui aimait aller avec son homme, pratiquement chaque jour, hein, mmh. Et pendant près de 5 ans de vie commune, aujourd'hui, elle n'éprouve plus de plaisir dans les rapports. Après son premier accouchement, elle dit non, qu'elle n'est plus motivée, elle n'aime plus le sexe. Comment la ramener juste pour sauver son couple?
Ça fait combien de temps que cette femme a eu son bébé?
Elle l'a eu en 2017, donc ça fait pratiquement un an maintenant.
Pratiquement un an, mm-hmm. Docteur Solano.
D'accord. Alors déjà, après l'accouchement, c'est normal de pas avoir de désir du tout pendant au moins 3 mois. Bon là, ça fait un an, mais c'est pour dire. À cause des hormones, toujours, parce que quand vous accouchez, il y a une chute des hormones. Et donc, les femmes ont... Et en plus, il y a une augmentation de la prolactine, qui est une hormone anti-désir pour allaiter, pour stimuler le lait. En plus, il y a une sécheresse vaginale à cause de la baisse des œstrogènes. En plus, il y a l'accouchement, le bébé est passé par là. Donc, parfois, c'est quand même assez sensible comme zone pendant un moment. Du coup, c'est normal au début. Il y a des femmes, alors je vous dis 3 mois minimum. Il y a beaucoup de femmes chez qui ça dure plus longtemps, ça peut durer 6 mois, 1 an. Et je me rappelle quand vous dites là, ça fait 1 an, je pense à une dame que j'ai connue, elle me disait, moi, elle avait 5 enfants, cette dame. Elle me dit, moi, chaque fois que j'ai un bébé, mon désir revient au bout de 2 ans. C'est très long, mais elle dit, moi je me disais ça reviendra jamais, puis un matin je me réveille et c'est revenu. Donc il faut savoir que des fois c'est beaucoup plus long que ce qu'on dit, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit c'est parce que elle a arrêté d'avoir des rapports sexuels. Bon, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Ben, quand on mange pas, on n'a pas d'appétit. Soit elle est très proche de son bébé. Elle s'en occupe énormément et toute son affectivité, elle l'investit dans son bébé. Donc, elle s'occupe plus assez de son homme. Et ce qui serait, alors si c'est ça, dans ces cas-là, il faut que son homme prenne sa place, qu'il lui dise, écoute, je sais que t'as pas tellement envie, que t'es pas très motivé, mais est-ce que tu acceptes quand même de faire l'amour sans avoir tellement envie? Est-ce que tu es capable de le faire? Alors je parle pas d'agresser sa femme sexuellement, évidemment, hein, mais des fois, il y a des femmes qui disent, non, je le ferai que si j'ai très envie. Ben, je leur dis, on peut avoir une petite envie ou avoir envie d'un câlin, par exemple, et ça arrive très souvent que dans ce cas-là, ou surtout quand c'est au bout d'un an, on se dise, oh, c'était quand même sympa de faire l'amour avec mon chéri parce que je l'aime quand même. Et puis, on n'a pas un gros désir, mais on recommence et petit à petit, ça réamorce. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ça vaut le coup. Et puis, il y a une deuxième question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un blocage dû à quelque chose? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je sais pas, est-ce qu'elle a une cicatrice d'épisiotomie qui lui fait mal et du coup, elle a pas envie parce qu'elle a mal? Est-ce que depuis, elle a une sécheresse vaginale? Est-ce qu'elle a eu une contraception différente d'avant sa grossesse qui fait que bah, ça lui bloque le désir? Il y a certaines pilules qui bloquent le désir. Je sais pas, est-ce que dans sa famille, on lui a fait des remarques désagréables? Je sais pas, est-ce qu'elle a pris 10 kilos? Elle dit maintenant, je me sens plus du tout belle ni désirable. J'ai des vergetures sur ventre, j'ai pris 10 kilos. Moi, j'ai plus envie de faire l'amour avec mon mari, il va pas me trouver belle. Vous voyez, il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans sa
tête. Passer par la communication.
Ouais, voilà. Est-ce que ça vous...
Est-ce que la réponse vous satisfait, Conan?
Oui, oui. Donc, pour résumer, il faut qu'elle soit patiente, c'est ça?
Voilà, il faut être patient, mais en même temps, il faut que son mari essaye d'aller la chercher un petit peu. Et puis aussi que son mari se dise, voilà, il y a des hommes qui disent, moi, ma femme a accouché, c'est comme si j'avais une femme différente, j'ai dû la reséduire, comme quand elle était jeune fille, lui faire des petits cadeaux, des compliments et tout, pour qu'elle revienne à la sexualité vraiment avec du désir et l'harmonie qu'on avait avant. J'ai dû la séduire à nouveau. Ça, c'est important aussi parce que c'est comme un nouveau couple qu'on forme quand on a eu un bébé.
Je vois, ça marche.
Avec tous ces bouleversements. Très bonne journée, Conan, à vous à Abidjan. On va tout de suite donner la parole à Tidiane qui nous appelle du Burkina, de Ouagadougou. Bonjour Tidiane.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien, on vous écoute Tidiane.
Voilà, bon, suite à un divorce pour cause d'infidélité de ma femme, il y a à peu près plus d'un an. Bon, après les relations que j'arrive à nouer, bon, je n'arrive pas à avoir de désir pour mes compagnes. Donc, à chaque fois même, avant de passer à l'acte, il m'arrive même d'avoir un sentiment de dégoût. Je ne sais pas où vient de réserver, je ne sais pas trop quoi. Donc, et puis, bon, quand, au moment de passer à l'acte aussi, bon, j'expédie ça vite, bon, pour pouvoir m'en débarrasser. Donc, bon, depuis, bon, j'ai du mal à savoir ce qui m'arrive, alors qu'avant, j'étais vraiment appliqué. Maintenant, bon, j'ai du mal.
En même temps.
Vraiment avoir des réponses.
En même temps, Tidiane, quand vous expliquez vous avez été trompée et depuis vous avez des difficultés, docteur Catherine Solano, on a un petit peu la réponse dans la question.
Mm-hmm.
Au niveau de l'amour propre.
Tout à fait, parce que quand on a été trompé, ben on a, d'ailleurs, c'est pas seulement que vous avez été trompé, vous avez une rupture à cause de ça, et du coup, ben c'est quand même un traumatisme parce que on avait mis toute sa confiance dans quelqu'un, on est très déçu, et donc c'est pas en cinq minutes, on se dit pas bon ben comme on vous dira une de perdue, dix de retrouvée, ben non, le cerveau quand il est attaché à quelqu'un, c'est très douloureux de se détacher.
Et il se protège aussi peut-être d'une certaine manière.
Voilà, vous avez raison Caroline, le cerveau, il se dit bah moi j'ai tellement souffert avec cette femme-là, moi les femmes c'est fini, hein, je n'en veux plus. Et du coup, il faut souvent, voilà, vous dites ça fait un an, bah ça vous paraît peut-être très long, mais c'est pas si long que ça, des fois il faut deux ans pour que petit à petit votre cerveau digère cet événement traumatisant et qu'il se dise bah finalement, toutes les femmes ne sont quand même pas comme ça. Peut-être que moi aussi j'ai fait des erreurs et que si je m'étais comportée différemment, peut-être que il y aurait pas eu d'infidélité. Je sais pas, là je connais pas les détails. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'évite pas? Peut-être que j'aurais dû voir des signes quand je l'ai connue que c'était pas le genre de femme qui serait fidèle. Je sais pas. Bon, voyez, il y a plein de questions. Donc je vous conseille de vous poser toutes sortes de questions en vous disant. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose et quoi? Parce que l'important dans la vie, c'est pas d'éviter les épreuves, parce qu'on ne peut pas, on va tous en avoir, on en a tous eu, mais c'est de chaque fois qu'on a une épreuve, c'est d'en tirer des leçons, de dire qu'est-ce que je peux faire pour que mon prochain couple soit mieux. Et une fois que vous aurez répondu à ces questions, eh bien votre cerveau, il sera plus confiant. Il se dira maintenant, je suis mieux armé, je saurai comment faire, et du coup, il aura moins peur d'entrer en contact avec une femme. Voilà.
Et ce qu'attend Tidiane, c'est vraiment des solutions concrètes pour essayer de sortir de cette incapacité à avoir une relation satisfaisante.
Alors déjà, je pense aussi qu'il faut que vous cherchiez pas forcément une petite copine, une amoureuse, quoi, ou une partenaire, mais que vous ayez des amies féminines. Parce que si vous voulez, quand le cerveau se dit, bah toutes les femmes sont infidèles, ce qui est faux, évidemment. Ben, vous allez éviter les femmes, alors que si vous avez des copines, vous discutez avec elles, vous leur parlez même, vous leur dites, moi j'ai été profondément choquée par ça. D'abord, elles se diront, ben, les hommes aussi ont un cœur, parce que c'est important. Il y a des femmes qui se disent, tous les hommes sont infidèles, ils sont pas. Alors qu'il y a des hommes qui cherchent une belle relation, comme vous avez envie de quelque chose de solide et où les deux sont fidèles. Donc, c'est rétablir des liens positifs avec des femmes, leur parler de ça, les écouter aussi pour les comprendre, de manière à ce que vous soyez plus armés et que vous ayez du coup moins peur de rencontrer une autre femme.
Voilà Tidiane pour ses conseils du docteur Catherine Solano.
Et puis je rajoute une petite chose, c'est que si ça continue à durer, moi quand j'ai une personne comme vous qui vient de consulter, on fait un travail de psychothérapie pour moi je fais beaucoup de EMDR, ça s'appelle pour balayer tous les traumatismes et qu'on arrive à avancer.
Voilà, il peut y avoir aussi des solutions à trouver auprès d'un psychologue. Voilà, très bonne journée pour vous à Ouagadougou. Tidiane, on va donner la parole. On reste au Burkina Faso, on va à Kaya. Et c'est Saïd qui est en ligne avec nous. Bonjour Saïd.
Bonjour madame.
On vous écoute Saïd.
Oui. Moi mon problème c'est quoi? Quand je fais des rapports avec une fille, je vois qu'il est bon. Pas satisfait, mais moi, je suis fatigué. Elle aussi, elle est fatiguée. C'est-à-dire que moi, satisfait, c'est pas de vivre, mais non. Quand je fais l'amour, quand je me lève, même si il y a un, deux jours, je sens que non, j'ai eu à faire l'amour. Mais c'est pas ça, même si c'est 5 heures après ou quelque chose après, je vois que bon, vraiment, j'ai encore envie, mais mon corps est fatigué. Elle aussi, quand je lui demande, elle est fatiguée. Je sais pas si ça dépend de ma capacité ou c'est la capacité de mon partenaire ou je n'ai pas encore eu le bon partenaire qui peut moi me satisfaire ou c'est une pathologie. Et là, moi, mon souci.
Catherine Solano, ce sentiment de fatigue, docteur Solano, on a l'impression pendant le rapport sexuel, c'est pas très clair.
Non, mais alors ce que je voudrais que vous précisiez, c'est vous dites je ne suis pas satisfait après avoir fait l'amour. Qu'est-ce que vous appelez ne pas être satisfait? Est-ce que ça veut dire que vous n'arrivez pas à avoir une éjaculation, par exemple?
Non, j'éjacule.
Non, ça marche, ça, d'accord. Et vous vous sentez pas satisfait après alors?
Voilà.
Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que pour moi, j'aime pas ce mot satisfait. De dire j'ai fait l'amour, je suis satisfaite. Pour moi, je suis satisfaite parce que j'ai fini mon travail ou parce que j'ai rangé quelque chose. On doit pas être satisfait, on doit être heureux, on doit être content, on doit se sentir complice, se sentir proche. Mais satisfait, ça fait un peu, je dois cocher des cases, est-ce que je suis satisfait? Qu'est-ce qui vous manque? Vous vous sentez pas heureux? Vous vous sentez pas... Vous voyez,
Après ça, je ne sens pas, je sens pas que j'ai eu à faire quelque chose que j'avais tellement envie.
Ça ne comble pas tous ses désirs.
Voilà, ça ne comble pas tout moi mes désirs.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a un psychanalyste très connu qui est Lacan, qui a dit une chose à ce propos. Il a dit une phrase qu'on comprend pas toujours bien. Il a dit, le rapport sexuel n'existe pas. Et en fait, ça veut dire le rapport sexuel n'existe pas, c'est-à-dire le rapport sexuel qui va
idéaliser.
Vous combler totalement, où vous serez heureux à 100% et vous direz c'est merveilleux, bah, ça n'existe pas. En fait, on a toujours un petit manque après un rapport sexuel parce que c'est ça qui nous donne envie de recommencer. On se dit bon sang, c'était bien, mais ça peut être mieux, je sens que ça peut être mieux, je suis pas totalement comblée.
On n'est pas rassasié.
Ça, c'est quelque chose de... Bon, alors peut-être aussi, là, je parle assez généralement, mais peut-être aussi, parce que vous avez posé la question, est-ce que ça veut dire que j'ai pas trouvé la bonne partenaire? Peut-être, parce que vous dites, quand je suis avec une femme, bon, ça veut dire j'ai pas une partenaire forcément régulière et une relation profonde. C'est vrai aussi que quand vous êtes avec quelqu'un que vous avez choisi, que vous aimez profondément, avec qui vous avez envie de construire des choses, de faire des projets, eh bien, la sexualité vous comble totalement différemment que, je prends l'extrême inverse, un coup d'un soir après avoir bu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui n'est pas forcément très réjouissant, comme certaines personnes vivent ça. Donc, c'est vrai que l'idéal pour un rapport sexuel qui vous comble, le plus merveilleux moment de la vie, pour moi, c'est un rapport sexuel avec quelqu'un que vous aimez, vous avez du plaisir, et quand vous voulez un bébé. Parce que ça a une dimension de transmission de la vie et tout ça. Je me suis toujours dit que c'était les plus beaux moments de la vie. Donc, peut-être qu'il faut que vous trouviez quelqu'un avec qui vous avez vraiment des connexions profondes et avec qui vous avez envie de construire, de faire des projets, de rigoler, de... Vous voyez, vous l'avez peut-être pas encore trouvé aussi.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir trouvé la femme de votre vie, Saïd ?
C'est compliqué.
C'est une question compliquée. En tout cas, à laquelle on n'a pas forcément envie de répondre à la radio. Je vous souhaite une excellente journée au Burkina Faso, Saïd. On va maintenant partir pour la Guinée. La Guinée où nous appelle une auditrice. Cette auditrice, c'est Kadidjatou qui est à Conakry. Bonjour Kadidjatou.
Oui, bonjour Caroline.
On vous écoute, Kadidjatou.
Bonjour docteur.
Bonjour Kadidjatou.
Oui. Bon, moi, je me suis mariée, ça fait presque un an. Mais avant le mariage, je me suis mariée en septembre. Avant le mariage, j'ai dû subir une petite opération pour mon excision. J'ai subi une excision à l'enfance, ça ne s'est pas très bien passé. Je ne le savais même pas. Mais lorsque je suis tombée un peu malade, un problème gynécologique, je suis allée. On m'a fait une visite. La gynécologue m'a signalé que si jamais je devais me marier, je devais avoir des rapports avec mon mari, qu'il faudrait que je subisse une opération d'abord avant les rapports. Sinon, ça n'ira pas, ça ne passera pas entre nous. Donc, j'ai dû subir l'opération.
On va parler concrètement avec vous, hein, Kadidjatou, même si c'est des choses assez douloureuses à évoquer. Ça veut dire que vous aviez subi, quand vous étiez enfant, une infibulation, c'est bien ça?
Oui, oui, avec mes soeurs, nous avons...
Vous aviez toutes subi la même chose. Donc avant de vous marier, il fallait donc qu'on ouvre le passage pour que vous puissiez avoir des relations sexuelles. Depuis, comment justement vous vivez votre sexualité depuis ce mariage?
Depuis ce mariage, au début ça n'allait pas. On est allé voir le gynécologue, il nous a dit qu'il faut attendre quelques mois. On a dû attendre. Maintenant, ça commençait à aller. Mais malgré ça, à chaque fois, c'est comme si là où j'ai suivi l'opération, c'est comme si c'était une plaie. À un mois, deux mois, ça revient. On n'arrive pas à avoir de rapport. Ça ne passe pas. Même actuellement, ça me fatigue.
Kadidjatou, j'ai une question. Qui a fait cette opération? Est-ce que fait dans un milieu hospitalier? Et deuxième question,
un gynécologue.
Est-ce qu'on vous a expliqué ce qu'on vous faisait? Est-ce que les gens ont parlé, vous ont dit « voilà ce qu'on va vous faire » et est-ce que des gens vous ont dit, par exemple, quand vous aurez votre première relation sexuelle, quand vous allez avec votre mari, voilà ce qui va se passer et voilà ce qui va se passer dans votre corps? Est-ce qu'on vous a parlé de tout cela?
Non, on ne m'a rien dit. Le gynécologue, avant, j'étais fiancée bien avant septembre. Le gynécologue nous a signalé que l'opération doit se faire tout juste avant le mariage, que ça ne doit pas avoir de distance entre l'opération et le mariage. Mais j'ai dû, après l'opération, on a reculé le mariage d'un mois. Donc, le mariage s'est fait, on a fait deux mois, les rapports, c'était pas possible. On est allé le revoir, il nous a dit d'attendre que ça va aller avec le temps. Mais maintenant, ça va un peu, mais c'est comme si c'était... Et l'opération que j'ai subie, il y a ça ne va pas, quoi. C'est difficile entre nous. Je n'arrive pas à avoir de rapport continu avec lui.
Et avec votre mari, vous pouvez en parler ou vous ne pouvez pas en parler avec lui?
Oui, on en parle. Nous allons ensemble, même chez le gynécologue. Même actuellement, je suis en traitement pour un problème de règles. C'est en Afrique, faire un an sans enfant, c'est des problèmes avec l'âge aussi, ça.
C'est difficile à vivre. Docteur Catherine Solano, qu'est-ce que vous pouvez dire à Kadidjatou?
D'abord, je vais expliquer ce que c'est qu'une infibulation quand même. Donc, une infibulation, c'est quand on coud l'entrée du vagin pour la fermer avec des fils. On prend une aiguille et on coud les petites lèvres. Ou, voilà. Pour... Donc, du coup, c'est pour ça qu'on peut pas avoir de rapport sexuel. En général, on laisse un tout petit trou quand même pour le sang des règles, mais qui est minuscule, quoi, où on pourrait passer peut-être un petit doigt, mais pas un pénis, en tout cas. Donc, c'est pour ça que bah, quand une femme a subi ce genre de
mutilation,
eh bien, forcément, on est obligé de faire une opération, heureusement pour vous, en gynécologie avec une anesthésie, pour ouvrir à nouveau et donc recoudre les endroits qu'on a ouverts pour qu'il y ait une ouverture au niveau vaginal et que le rapport sexuel soit possible. Alors, vous comprenez bien que le temps que ça cicatrise, quand vous voyez une femme qui a une épisiotomie, par exemple, après un accouchement qui a été coupée et recousue dans des bonnes conditions, ça fait souvent mal pendant 6 mois, parfois 1 an, et bien c'est normal que un mois après, vous ne soyez pas dans
confortable.
Confortable, que ça soit pas agréable, ni confortable, voire douloureux. Et puis, il y a une... Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est le côté physique. Et il y a aussi le côté psychologique. C'est-à-dire que quand on a subi une excision et une infibulation, parce qu'en général, c'est les deux en même temps, donc c'est un traumatisme corporel et psychologique, même quand on s'en rappelle pas, c'est-à-dire que le bébé, mettons qu'on avait même 1 an, on s'en rappelle pas quand on est adulte, mais le cerveau, lui, il a en mémoire cette douleur. Et donc, quand on va réopérer cette zone, ça réactive, en fait, les souvenirs de la petite enfance où on avait subi ça, et ça fait que c'est comme si le corps se disait, mais moi, je veux plus qu'on touche à cet endroit-là, à chaque fois que quelqu'un vient, il me fait mal. Ce qui fait que, donc, parce que ça a été le couteau ou les aiguilles dans la petite enfance, ça a été le gynéco pour l'opération. Et puis quand votre sexe, si on veut, il voit le pénis, même si c'est cicatrisé, il voit le pénis de votre mari approcher, il se dit au secours, moi j'ai plus envie qu'on me touche. Donc il y a quelque chose de l'ordre du réflexe, vous voyez, à ce niveau-là. Donc effectivement, vous dites que vous allez avec votre mari revoir le gynéco pour être suivi, ça c'est hyper important pour savoir à quel moment ça va être cicatrisé vraiment, pour savoir aussi est-ce que l'ouverture est suffisamment bonne, parce que vous voyez, quand les tissus cicatrisent, bah, ça peut se resserrer un petit peu, donc il faut que ça soit, voilà. Et ce que je vais vous conseiller, moi, par ailleurs, pour faire ce que vous pouvez pour avoir des rapports sexuels un jour ou l'autre, c'est pas d'essayer la pénétration avec le pénis du tout. C'est simplement, il faut que votre mari passe son doigt au niveau de votre vulve sans chercher à rentrer. Vous voyez, comme si vous caressez la joue, j'allais dire très doucement.
Effleurer.
Ça, pourquoi il faut faire ça? Moi, je travaille beaucoup comme ça avec mes patientes. C'est pour dire à votre vulve, vous lui dites, tu vois, mon chéri, va te faire une petite caresse, il veut pas te faire de mal. Il y a des gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé, mais lui, il veut te faire un câlin. Et vous faites juste une caresse. Et vous faites ça, peut-être pas tous les jours, mais presque, tout régulièrement, sans faire plus, jusqu'à ce que vous sentiez que cette zone est détendue. Et que c'est même peut-être agréable, que c'est quelque chose. Et quand il aura fait ça, il faudra qu'il pose son doigt juste à l'entrée du vagin, qu'il fasse un petit câlin à l'entrée sans chercher à rentrer. Et si vous voulez, c'est comme ça qu'on fait millimètre par millimètre pour réapprivoiser cette zone, qu'elle se dise, ben, ouf, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un qui veut me faire des câlins et qui est gentil. Et donc là, j'ai pas besoin de me contracter, d'avoir peur. Voyez,
ce message de Catherine Solano, Kalidjatou, vous avez besoin de douceur. Voilà,
voilà. Votre sexe a besoin de douceur parce qu'on n'en a pas eu assez jusqu'ici.
Kalidjatou, vous avez une autre question à poser?
Oui, mais par rapport à ce que le docteur a dit, je n'ose même pas que quelqu'un mette la main par là-bas. Ça me fait beaucoup.
Voilà.
Ça me fait des douleurs atroces. Des fois, il tente, mais...
Et si vous le faites vous-même, alors quand c'est comme ça, d'abord, ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut d'abord que ça soit cicatrisé. Parce que si votre gynéco vous dit c'est pas encore prêt, bah c'est pas la peine d'essayer. C'est comme si on vous ouvre et on vous dit bah faites-vous touchez-vous tous les jours, ça va vous faire mal. Ensuite, donc il faut le faire vous-même. Vous faites juste un petit câlin à cette zone, bah comme si vous alliez, j'allais dire, vous avez un petit chat, vous allez le caresser, vous caressez cette zone, juste une peu votre main qui passe dessus et vous lui dites ne t'en fais pas. Tu as vécu le pire, il est derrière toi, maintenant c'est fini, on ne te fera plus de mal.
Peut-être éventuellement en appliquant une crème cicatrisante ou quelque chose.
Oui, ça peut être une manière de le faire, de faire des massages très très doux et surtout en vous faisant jamais mal. Pour que après votre mari puisse le faire quand vous serez déjà plus détendu par rapport à vous-même. Est-ce que ça c'est possible?
Bon, vous savez docteur, il y a 2 fois, ça peut faire 1 mois. Je peux toucher, il peut toucher, je ne sens rien, j'ai pas de main, ça revient, c'est comme si l'opération que j'ai suivie, quand ça revient, je n'ose même pas mettre la main là-bas, à plus forte raison que quelqu'un d'autre mette.
Ah
c'est comme si c'était la plaie qu'ils ont ouverte, ce qu'ils ont déchiré, que c'est ce qui est revenu. Ça se calme quelque temps et puis ça revient. Ça revient comme si c'était la plaie qui s'est réouverte encore.
Vous avez reconsulté votre gynécologue pour lui parler de ça et surtout lui montrer éventuellement la cicatrice?
Oui, oui, même actuellement, je suis un traitement. Mais quand je vais, quand ça revient, on me donne une pommade ou on me dit que que ça va, que c'est bien fait, c'est comme ça. Mais
ils vous disent que ça s'améliore quand même au niveau de la cicatrice, c'est ça?
Oui, oui, quand ça se calme, je ne sens rien, j'ai pas de douleur, j'ai des rapports normaux. Mais quelques mois, un ou deux mois, ça revient comme si c'était le jour de l'opération.
Ah ouais, c'est ça.
Je n'ose pas même moi-même toucher là-bas.
Voilà, mais il faut vous dire que petit à petit, si vous arrivez à avoir des rapports quand ça va bien, vous arrivez à avoir des rapports quand même quand ça va bien.
Oui, oui.
Ah, mais donc ça, c'est formidable. Nous, on n'avait pas compris ça. Donc, ça veut dire que, si vous voulez, ça veut dire que par moment, tout votre passé remonte, quoi. Que toutes ces douleurs que vous avez subies remontent. Et normalement, ce qui va se passer petit à petit, si votre mari est doux et attentionné, c'est que ces moments-là vont s'espacer de plus en plus. Parce qu'en fait, chaque fois que ça revient, c'est que votre cerveau, il essaye de digérer ce que vous avez vécu. Et il se dit, c'est pas fini, j'ai encore des cicatrices psychologique et physique, mais petit à petit, il digère et normalement, vous allez avoir de plus en plus de moments où ça va aller bien.
D'accord.
Voilà, Khadija Tou, bonne journée à vous à Conakry. On va faire une petite pause, un petit peu de douceur dans un monde qui n'est pas toujours tendre, avec un petit retour en arrière en 1966. Sledge, 1966, hein, tout de même, on se retrouve avec le docteur Catherine Solano, sexologue. Les questions des auditeurs de Priorité Santé, on continue de parler du désir au féminin, ce qui attire, ce qui repousse, ce qui intrigue, ce qui titille, ce qui fonctionne, ce qui ne marche pas, voire ce qui repousse. Et on reprend notre échange avec les auditeurs. On retrouve tout de suite Abondance, qui est en ligne du Burkina Faso, de Ouagadougou. Bonjour Abondance.
Bonjour Laurent.
On vous écoute.
Bonjour, la sexologue.
Bonjour, Abondance.
On vous écoute.
Bonjour. Oui, en fait, je voulais demander à propos de l'excitation. Par exemple, lire un peu, tu vois un peu l'appareil génital de la femme. Souvent tu t'excites et souvent pas. Je voulais comprendre pourquoi ça.
Mmh. Donc ce que vous demandez, c'est pourquoi une femme, elle peut avoir une excitation sexuelle ou pourquoi quelquefois elle n'en a pas du tout. Vous ne comprenez pas comment ça fonctionne.
Ouais, comment ça fonctionne.
Voilà. Eh ben, ça c'est. Alors c'est une question. Si vous voulez, souvent les hommes, ça fonctionne plus automatiquement parce que en fait, les hommes sont très sensibles à la vue. C'est-à-dire que un homme voit une femme nue, il va avoir une excitation sexuelle. Pas parce que il est une machine, hein, mais parce que la nature a prévu que ça doit fonctionner pour faire des bébés. Une femme n'a pas du tout le même effet. Quand elle voit un homme nu, ça lui fait pas forcément. Ça peut lui faire de l'effet, mais pas forcément. Et donc, pour une femme, il faut souvent plus de temps pour avoir une excitation sexuelle. Elle a besoin d'une ambiance positive. Et si vous voulez, très souvent, il y a beaucoup de femmes qui disent, par exemple, moi, le soir, quand mon partenaire a envie de faire l'amour, il s'étonne que j'ai pas envie. Bah, il a été désagréable ou grognon toute la journée, il me fait pas un compliment et le soir, il a envie de faire l'amour. Parce qu'on dit souvent qu'un homme a besoin de faire l'amour pour se sentir détendu. Alors qu'une femme, elle a besoin de se sentir aimée, désirée, de se sentir bien entourée pour avoir du désir et une excitation. Donc, si vous voulez, ce qui est très important pour une femme, c'est les préliminaires. Mais les préliminaires, c'est pas que les caresses sexuelles, c'est aussi tout ce qui se passe dans la journée, dans les heures avant le rapport sexuel. Donc ça, c'est très important. Ensuite, ce qui est important pour une femme, c'est d'avoir des caresses non sexuelles au début, c'est-à-dire sur les cheveux, les épaules, des baisers sur les bras, même les pieds, les jambes, et ensuite des caresses sur la zone sexuelle. Souvent, l'excitation féminine est pas automatique et instantanée. Ça peut, hein, ça, bien sûr, il y a des femmes qui peuvent avoir beaucoup de désir à un moment particulier, mais pas forcément. Est-ce que je réponds bien à votre question ou pas trop ?
Abondance.
Entendu.
Entendu, bah, très bien. Entendu. Bonne journée à vous à Ouagadougou, au Burkina. On va partir pour la République démocratique du Congo. On retrouve à Lubumbashi Simon. Bonjour Simon.
Bonjour docteur.
Qui avait des problèmes visiblement aussi avec votre téléphone. On vous écoute tout de suite, Simon.
Oui, exactement. Je suis à Lubumbashi. Hein.
Oui, oui, Lubumbashi. Mm-hmm. Pas de problème, je l'ai dit.
Allô?
Oui. Bonjour, Simon. On vous écoute.
Alors, ok. Bonjour, docteur. J'avais un petit problème. Hein. Bon, c'est un problème qui est un peu général. J'allais dire, poser une question par rapport à l'éjaculation précoce. Est-ce que c'est une pathologie?
Est-ce que c'est une pathologie?
Est-ce que c'est une maladie?
Alors ça, c'est une bonne question. Non, c'est pas une maladie. C'est un réflexe naturel d'avoir une éjaculation précoce. Et pour ne plus avoir d'éjaculation précoce, on dit, il faut apprendre les habiletés nécessaires. C'est-à-dire que retarder l'éjaculation, ça s'apprend. C'est pas de naissance. Le bébé ne naît pas avec un programme informatique dans le cerveau pour dire, voilà comment retarder l'éjaculation. C'est quelque chose qui s'apprend.
Ok madame, ok docteur, bien compris. Il y a plusieurs qui disent oh, peut-être c'est un taux lié au sucre, il faut pas manger des histoires sucrées.
Ça c'est faux, mais c'est vrai que manger beaucoup de sucre c'est pas très bon pour la santé, mais pas pour l'éjaculation précoce. Je pense pas qu'il y ait un lien particulier avec ce qu'on mange. Hein.
Quelle est vraiment la stratégie qu'on peut utiliser pour stopper
ses habiletés, hein, c'est là, si on est plus en termes d'éducation sexuelle.
Voilà, alors je vais vous donner plusieurs pistes, mais vous savez, moi j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet, donc je peux vous parler pendant 3 heures sans m'arrêter de ce sujet, donc j'ai pas pouvoir
on a pas
tout
le
vous
temps.
Dire en
non,
5
ça va
minutes.
Pas être possible, voilà. On va essayer 3
donc,
minutes.
La première chose, c'est qu'il faut des rapports sexuels suffisamment fréquents. Parce que quand on a un rapport sexuel par mois, c'est impossible d'apprendre à ralentir l'éjaculation. Il faut 2 ou 3 rapports par semaine. Ensuite, il faut que la femme ait une lubrification suffisante. Donc, éventuellement, utiliser du lubrifiant parce que si il n'y a pas une bonne lubrification, ça frotte beaucoup plus et l'éjaculation vient plus vite. C'est des choses basiques mais importantes. Ensuite, pour vous aider, ce que vous pouvez faire en tant qu'homme, c'est choisir une posture où vous êtes allongé sur le dos. et votre partenaire est sur vous, dans cette posture, l'éjaculation vient beaucoup plus tard. Surtout, si vous ne bougez pas, il faut que vous soyez allongé sur le dos, vous avez le droit de bouger que les bras et les mains et lui faire des caresses, et c'est elle qui fait le mouvement. Parce que ça, et il faut vous concentrer à ce moment-là sur vos sensations, et pas sur elle. Ça, c'est un apprentissage que beaucoup d'hommes ont du mal à faire. Je dis pas qu'il faut toujours faire l'amour comme ça toute sa vie, hein, pour ne pas avoir d'éjaculation précoce. Mais pour apprendre, c'est une chose très importante. Ensuite, il faut apprendre, donc on peut pas tout faire en même temps la première fois, sinon faut essayer petit à petit différentes stratégies.
Ça va manquer de naturel.
Oui, voilà. Exactement, Caroline. Il faut apprendre à respirer par le ventre pendant les mouvements de va-et-vient. Parce que...
Il va lire des fiches pendant...
Voilà, vous lisez, vous mettez des petites fiches à côté. Non, des non, on rigole là. Parce que quand on respire par le haut du thorax, ça crée comme un stress quand on respire vite et par le haut du thorax, et ça précipite l'éjaculation. Ensuite, une chose qui aide beaucoup aussi, qui va être peut-être le dernier conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est très important, c'est de lui dire des mots d'amour pendant le rapport sexuel. Vous lui dites qu'elle est belle, que vous l'aimez, que vous êtes bien avec elle. C'est très important, ça a tendance à ralentir l'éjaculation. Ça paraît curieux, mais c'est parce que au lieu d'être dans l'excitation sexuelle, dans le sexe brut, si vous voulez, on est dans les émotions et les sentiments. Et ça, ça apaise l'excitation. Ça fait une excitation plus douce et on est plus dans l'amour, le sentiment amoureux que dans l'excitation brutale. Et du coup, l'éjaculation se fait plus tranquillement.
Voilà, Simon, pour ces conseils du docteur Catherine
Solano.
Ça va
vous aider?
Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous pouvez aller sur le site internet et réécouter l'émission, hein, pour prendre des notes.
Hein. Vraiment, ça a aidé tout le monde. Peut-être c'est là qu'ils n'ont pas eu la chance de passer en direct.
Et ben, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup, Simon. Excellente journée à Lubumbashi. On va maintenant prendre en ligne Victor, qui nous appelle de la région parisienne, pas très loin d'ici. Bonjour, Victor.
Voilà. Bonjour, Caroline. Bonjour, docteur Solano.
On vous écoute, Victor.
Veuillez m'excuser pour ma question, j'ai hésité, je me suis dit, mais est-ce qu'il faut la poser, il faut pas la poser. Mais comme le sujet du jour portait sur le désir au féminin, j'ai dit, bon, ben, je vais quand même essayer.
Allez, lancez-vous.
Alors, je trouve que c'est certaines femmes entre l'âge de 50-60 ans sont encore physiquement belles, désirables. Mais du fait de la ménopause et ces désagréments, qu'en est-il du désir dans leur corps, leur tête? Je me disais, est-ce qu'elles répondent encore facilement aux stimulations sexuelles, les caresses? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles ont encore des fantasmes? Je me suis dit, mais comme docteur Solano les reçoit en consultation, peut-être qu'elles parlent encore des choses comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais savoir par rapport au sujet du jour.
Moi, je trouve que c'est une très bonne question.
Voilà, c'est une très bonne question. Et vous savez ce qui me passe par la tête en vous écoutant? Je me disais, ben, regardez Madame Macron, elle a une soixantaine d'années, si j'en sais bien. Eh ben, non, mais je lui ai pas demandé, je l'ai pas en consultation, c'est pas ça que je veux vous dire. Mais je pense qu'elle a l'air fort épanouie. Bon, ça, c'est une impression, moi, je ne sais pas. Alors.
On va revenir à nos auditeurs, si vous voulez bien, Catherine.
Donc, c'est vrai qu'il y a un changement du désir à la ménopause, c'est que la femme, à partir de la ménopause, n'a plus de cycles hormonaux. Résultat, elle va pas avoir les pics du désir de l'ovulation comme elle les avait avant. Donc, il y a des femmes qui se plaignent, j'en entends, qui disent, ben, c'est pas marrant parce que par moment, j'avais beaucoup de désir comme ça, et puis certains jours, et puis d'autres, c'était un petit peu moins. Maintenant, c'est plus plat, c'est plus régulier. Voilà. Donc, ça les empêche pas d'avoir du désir, mais c'est un petit peu différent. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est que, il y a des femmes qui se sentent totalement libérées à la ménopause pour la bonne raison qu'elles n'ont plus besoin de contraception. Parfois, elles avaient une pilule qui les énervait à prendre tous les jours, même si c'est utile de pas avoir 25 enfants, on est tous d'accord. Mais il y avait une pilule qui pouvait être difficile, par exemple, à tolérer et qui peut parfois bloquer le désir. Donc, il y a des femmes qui disent, mais j'ai jamais eu autant de désir qu'à la ménopause. Donc, ça, c'est intéressant quand même. Vous avez quelques femmes qui disent, c'est pas marrant la ménopause, j'ai des petits poils qui poussent au niveau du menton. Ça arrive. Bon, tout le monde les épile quand ça arrive. Mais c'est signe qu'il y a de la testostérone. Et la testostérone, c'est l'hormone du désir. Donc, ça, c'est, dites-vous, finalement, c'est peut-être bon signe. Et puis, il y a une chose très importante dans ce que vous disiez, et on vous en remercie, c'est de dire aux femmes à 50, 60 ans, il y a des femmes qui sont encore très belles et très désirables, et il y en a de plus en plus, je trouve, parce que les femmes se prennent soin d'elles. Et ça, c'est très important, parce que il y a des femmes qui, après la ménopause, n'ont plus de désir, parce qu'elles se disent, bah, maintenant, je suis vieille et moche. Et ça dépend énormément du ressenti qu'on a de soi. Il y a des femmes qui ont 73 ans qui disent, eh ben, moi, je me sens encore désirable. désirable. Je mets de la crème parfumée avant de faire l'amour avec mon mari. Il me désire toujours et je me sens belle. Il y a des femmes qui, à même 35 ans, se sentent pas belles parce qu'elles trouvent qu'elles ont 3 kilos de trop ou que leurs cheveux sont trop comme si, ou je sais pas, chacun a ses complexes. Donc, c'est énormément lié à l'idée qu'on a de soi aussi. Et donc, quand elles ont un mari comme vous qui dit « Chérie, tu as 60 ans, tu es séduisante et belle », ben, ça les aide beaucoup, forcément, à continuer à se sentir belle, à continuer à avoir du désir et des fantasmes.
Voilà.
Est-ce que j'ai bien répondu à votre question?
Voilà pour cette réponse, Victor.
Très bien, très bien. Très bien, docteur. Alors, pour finir, ça, c'est un peu dans le futur. Est-ce qu'on ne peut pas, pour celles qui n'ont plus envie, est-ce que avec des recherches maintenant, peut-être faire des injections de testostérone pour stimuler le désir, ça c'est de la fiction quoi. Est-ce
ben
que c'est
non,
quelque chose
non,
que l'on peut envisager ?
Non, vous avez raison, des fois il arrive qu'on prescrive un petit peu de testostérone aux femmes, mais il faut faire attention parce qu'il faut qu'on leur en donne que si c'est très bas. Parce que ça fait pousser les poils, si vous voulez, la voix grave,
c'est
oui, et puis c'est pas tellement. Alors la meilleure solution pour faire augmenter la testostérone chez les femmes, c'est l'exercice physique. 30 minutes de sport, ça fait un peu monter la testostérone.
Et c'est naturel.
C'est naturel, c'est excellent pour la santé et pour le désir aussi. Donc ça, c'est mieux de dire aux femmes ménopausées, mettez-vous au sport, vous resterez plus mince, vous aurez plus de désir, vous serez plus musclé. C'est, à mon avis, c'est une meilleure piste.
Voilà, Victor, merci beaucoup. Très bonne journée à vous. On va prendre un dernier appel, hein, en regardant la pendule, c'est ce que je vois. Du Niger, de la région de Niamey, c'est Mahaman. Bonjour Mahaman.
Bonjour Caroline, bonjour docteur Salomon.
On vous écoute.
Bonjour. Moi, ma question était que, donc, c'est avec ma copine, on n'arrive pas à avoir le même désir au même moment. Et malgré que je fasse des préliminaires, on parle du sexe bien avant, mais et là, n'empêche, on n'a pas le même désir au même moment.
Docteur Solano.
Et alors, quelquefois, est-ce que elle vous dit qu'elle a du désir et vous n'en avez pas ou elle vous dit jamais?
Bon, elle ne me parle pas, mais je sens que c'est comme si elle n'avait pas le désir, donc. Parce que des fois, quand ça se fait sentir, je remarque ça moi-même, donc.
Donc moi, ce que je trouve, c'est que faudrait carrément lui demander, est-ce que quelquefois tu as du désir ou est-ce que tu as peur? Parce que souvent, quand une femme n'a pas du tout de désir jamais, c'est qu'elle a peur ou qu'elle a vécu des choses négatives au niveau de la sexualité, donc il y a un blocage. Donc demandez-lui, est-ce que des fois tu as du désir? Donc elle va pas se sentir agressée parce que vous lui dites pas, est-ce que tu as envie maintenant? Vous lui dites, parfois, est-ce que tu as du désir? Si elle vous dit oui, vous lui dites, écoute, je vois que tu n'oses pas me le dire puisque tu me le dis jamais. Et vous allez lui dire, tu vas faire quelque chose. Quand tu as du désir, on va se mettre d'accord sur un petit signe. Tu fais un geste, tu me caresses l'oreille droite, tu me tapotes sur l'épaule gauche, je sais pas, un petit geste, un petit chose. Parce que beaucoup de femmes ont été éduquées pour pas montrer leur désir, donc elles n'osent pas le faire. Bon, alors, quand elles en ont, c'est quand même dommage parce que ça pourrait aider les couples à être plus heureux.
Oui, évidemment, évidemment.
Vous êtes prêt, Maman, à engager la conversation sur ce plan avec votre compagne?
Voilà, et puis si elle vous dit non, je n'ai jamais de désir, il faut lui dire, est-ce que tu crois que tu as un blocage? Voilà.
Oui, oui.
Parce qu'elle va peut-être vous dire oui, et vous lui dites à ce moment-là, est-ce que tu veux m'en parler?
Ou en parler éventuellement à quelqu'un d'autre.
Voilà, et si elle vous dit non, écoute, je préfère ne pas en parler, vous lui dites, bah écoute, si à un moment tu as envie de m'en parler, parle-moi, ou parle-en à quelqu'un d'autre, qu'elle n'ait pas l'impression que vous ayez un tire-bouchon pour ouvrir ce qu'elle a dans le cerveau, parce qu'il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui ont subi des attouchements ou pire, des agressions, et donc qui osent pas en parler, et quand elles peuvent avec leur partenaire, c'est super, parce que ça aide énormément.
Voilà, Maman. Voilà pour ces conseils du docteur Catherine Solano. Excellente journée à vous au Niger. Merci à vous, hein, docteur Solano, d'avoir répondu à toutes ces questions des auditrices et des auditeurs de Priorité Santé. Et nos auditeurs le savent bien, on vous retrouve tous les jeudis pour plus de conseils et pour d'autres réponses à vos questions. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique et réalise votre émission. C'est Toussamaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, nous allons parler de la marche et de la santé des pieds, la meilleure façon de marcher. Appelez-nous le numéro 33 84 22 75 75. On se retrouve demain.
l'été avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.